R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Rebonsoir à tous. Après cette petite performance qui s'appelait Réinstallation, on est content de vous accueillir à Kiasma. Pour ceux qui étaient avec nous pour le début de la visite de l'exposition, de ce quatrième récit de l'exposition. Et on est content aussi d'accueillir ceux qui nous rejoignent pour cet échange entre Vincent Chevillon et Thomas Lasbouig. Thomas qui est déjà venu à Kiasma avec Vincent Chevillon pour le festival Relecture en septembre dernier, qui avait déjà fait une proposition de lecture avec Vincent. On a traversé, pour redonner un peu le contexte de cette exposition-là, à la fois c'est un dispositif qui est en variation donc tout au long de l'exposition, et chaque aussi proposition d'invitation est une manière de l'éclairer ou de le mettre en critique ou de l'étendre ou de donner de nouvelles possibilités. Donc ces invitations-là sont à la fois les éléments à part entière de l'exposition et permettent de continuer le vocabulaire qu'il ouvre. Aujourd'hui, c'est plutôt une rencontre autour des mondes possibles, puisqu'on va voir aussi le travail de Thomas autour de cette question de la production de mondes possibles. On échangera avec Vincent sur ces questions-là à travers aussi la espèce de cosmogonie qu'il a construit avec son œuvre site internet archipel.org. On reviendra aussi sur la question de ces nouveaux mondes, puisqu'on l'avait finalement déjà aussi évoqué par la bande avec Fabrizio Terranova autour de la question de l'appât, et la question de l'appât en art, ou la question de comment faire entrer une audience dans un récit et l'emmener sur un terrain spéculatif. Donc je vous laisse la parole à tous les deux.
Comme ça, je vais juste introduire Thomas et notre rencontre. Et puis
Thomas va donner peut-être quelques éclaircissements sur le film. Donc Thomas, on s'est rencontrés on s'est rencontrés il y a 2 ans, à l'occasion où il travaillait notamment sur ce projet. Donc il était en préparation de ce lourd projet. Et je lui ai proposé une petite balade en bateau. Donc on a traversé l'Atlantique à partir des îles Vierges britanniques. Moi, j'étais venu, j'avais fait une petite pause de 3 semaines à moi lors de ce grand périple en bateau, et pour notamment présenter un début de recherche et ramener pas mal de choses que j'avais récoltées pendant les 6 derniers mois. Et donc, je propose à un moment donné à Thomas de me rejoindre sur un bateau. Thomas qui n'avait pas souvent mis les pieds sur un bateau et qui me dit oui.
Jamais navigué.
C'est sûr.
Et du coup, on a engagé en septembre dernier ici une performance qui s'appelait Yarns. Donc Yarns, c'est la pelote de laine en anglais, mais ça désigne également les récits de marins. Ces espèces de récits interminables en fait qui se déroulent et donc qui étaient à partir d'un journal de bord qu'on avait engagé sur le C4C, chacun de notre côté. On a commencé à greffer d'autres récits de marins pour créer une espèce comme ça de ligne qui nous faisait voyager à travers en fait les différents imaginaires et le rapport au monde évidemment qui changeait en fonction des personnes qui étaient interpellées, mais toujours à 2 voix. J'ai vraiment voulu inviter Thomas pour présenter ce travail, Making of Elina, qui me semble un regard assez clairvoyant et à la fois ambigu sur la figure, on va dire, de l'explorateur et de cette espèce de, non pas d'autodérision, j'ai envie de dire, mais de rapport réflectif à une production, donc quelque chose qui est en train de se faire et qui donne à voir quelque chose j'ai envie de dire, un devenir, quoi. Voilà. Vous verrez, vous comprendrez dans le film. Je passe la parole, Thomas.
Ok. Donc, bonsoir. Donc je travaille à Strasbourg, et j'ai une pratique du langage et des technologies de communication, que ce soit de la radio, des systèmes satellites. Et donc pour commencer, j'ai cette petite image qui est un impact d'un objet situé dans l'espace qui a percuté la vitre de l'ISS. Donc là, on est dans un état de crise parce que c'est la pire peur de tout astronaute. Donc voilà, c'est une petite introduction à ce qui va suivre. Et le projet Elina, c'est une collaboration que j'ai menée avec Guillaume Barthes, donc qui lui a une pratique de sculpture. Et nous avons décidé de réaliser une fiction autour d'une nouvelle planète qui s'appelle Elina. Et nous sommes partis nous y rendre. Et on a proposé donc un atterrissage et une exploration de cette nouvelle planète en direct sur Internet via un site Internet dédié. Et tout le monde pouvait se connecter. Donc c'était le lundi 16 janvier 2015 à 20h. On a convaincu également plusieurs lieux pour nous programmer dans leur, pour cette retransmission. Donc il a été visible sur différents continents. Et ensuite, à notre tour, le projet, pour moi, a pris cette forme-là, Making of Elina. Donc c'est l'aboutissement de toute cette aventure.
Peut-être poser une petite question liminaire, juste Thomas, pour après peut-être enchaîner avec le dialogue avec Vincent. Tu choisis aujourd'hui, ce soir, de nous montrer en fait un film qui est le making of de cette reconstitution. Donc on imagine et on devine avec les éléments qu'on a qu'il y a la volonté d'avoir un récit qui peut avoir une certaine forme de réalisme qui va être trimé à un temps T. Mais dans ce que tu présentes aujourd'hui, dès le départ, tu t'écartes de la présentation de l'objet qui aurait été l'objet de la fabulation, du faux, pour aller vers un objet qui oscille justement, qui montre la manière dont on a fabriqué le faux, qui conserve quelque part une certaine forme de poétique du projet, on la reçoit totalement, mais directement qui sort de l'idée de présenter l'objet en fait, que vous fabriquez à ce moment-là, qui le met quelque part un peu à distance. Est-ce que c'est un choix de départ ou c'est à l'arrivée, ce making-of est devenu le film pour une raison un peu de manière pragmatique, où tu avais déjà un peu l'idée qu'il n'était pas question de faire tout à fait un espèce de film illusoire et un fake, mais plutôt d'essayer de travailler sur la poétique du monde?
Alors, déjà dans mon travail en général, aussi en performance, j'incarne souvent un statut d'autorité, mais du coup je crée des dispositifs où le public doit se forcer à imaginer ou doit se forcer à rentrer dans l'histoire, puisque évidemment il n'y a pas forcément c'est assez cheap au niveau de la construction du film. Ça me plaît aussi beaucoup d'un moment donné, comment avec quelques petites choses, on arrive à générer un potentiel de projection. Ensuite, pour la suite de la question, au tout départ, ce qui me plaisait dès le départ, c'était d'avoir ce point de vue qui est déjà difficile à valider, dès qu'on voit le streaming, mais à partir du moment où il y a cette connexion Internet, le fait qu'on soit absent de l'espace où on projette la chose et que le public attend, parce que depuis un an, ils attendaient avec un décompte sur notre site. On avait gardé le mystère, on avait fait une communication précise avec une cartographie, etc. On en sait déjà depuis un an cette fiction. Et pour moi, ce qui était important, c'était de clôturer ce streaming qui n'existe plus en l'état. En fait, je le diffuse, c'est terminé, il est éphémère, comme la sculpture qui a disparu. Et qui avait son importance dans la durée, dans la tension du streaming, dans le décompte, etc. Et qui était valide par notre absence également. Et du coup, le making-of, pour moi, c'était une manière de décaler aussi le point de vue de cette caméra que l'on voit, avec laquelle je joue d'ailleurs pendant le streaming. On voit quelques petits extraits où il y a des sortes de mises en abîme ou des jeux de reflets que j'essaie de reproduire à travers l'outil technique et que Guillaume, lui, utilise pour le reflet de sa sculpture pour représenter la planète. Donc du coup, voilà, cette volonté de changer de point de vue, de m'écarter de la caméra et d'ouvrir le champ avec d'autres points de vue, d'autres petites caméras embarquées, des éléments comme ça, qui soient pour moi comme des balises ou des miroirs que je vais faire tourner. Au départ, je n'avais pas forcément une trame finale comme ce que vous avez vu ce soir. Ça s'est construit au fur et à mesure, mais en tout cas, une volonté de capter un maximum de hors-champ, d'inclure en permanence la technologie ou des morceaux de technologie pour révéler au public un petit peu comment ça se passait. Voilà.
Moi, Thomas, dans ton film, il y a quelque chose qui me questionne pas mal, qui m'intrigue, qui m'intéresse, qui est cette espèce de contraste qu'il y a entre une figure héroïque, on va dire, occidentale, clairement identifiée, de personnes qui débarquent comme ça dans un pays avec une espèce de bienveillance, un regard par la fenêtre, tu filmes les gens par la fenêtre, tu as toujours cette espèce de distance, et une poétique du voyageur à la main, dans le vent, etc. Et puis un autre pendant de presque de jeunes gens bras cassés qui n'arrivent pas à bricoler leur truc, une espèce de, j'ai presque envie de dire, de dérision ou d'autodérision et de par rapport à, en fait, à quelque chose que tu présentes qui est finalement assez violent dans le protocole même de cette action à un moment donné, même d'exploration et d'implantation sur un territoire. On voit cette espèce d'igloo qui finalement s'écroule, on voit ce drapeau qu'on n'arrive pas à planter, cette espèce de violence. Tu peux nous en parler un peu de toi, ton rapport du coup à cet objet-là?
Si tu veux, ce qui m'intéressait aussi, c'était que je sois conscient de mon rôle avant de partir, et même en construisant cette chose-là, et du contexte en fait de création de ce film, que ce soit du contexte ici pour le spectateur qui va recevoir le streaming, mais aussi au moment où on va construire notre aventure sur place. Voilà, moi c'était important pour moi, donc moi j'avais cette conscience là que Guillaume, lui, avait peut-être moins. Mais ça m'a permis, en fait, de créer de l'image aussi. C'est-à-dire de ne pas forcément convaincre Guillaume et de le laisser aussi travailler comme moi, en fait, et de se mettre en scène sur qui on est réellement, c'est-à-dire des étrangers qui arrivent ici. Mais en même temps, en prenant en compte ce contexte, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à mon impact, qu'est-ce que ça voulait dire de faire cette retransmission là-bas, de me renseigner, et comment filmer les gens, quoi. Comment avoir un juste regard. Voilà. C'est pour ça que je n'hésite pas à me représenter tel que je suis à travers ces images et de me moquer, voilà, ou de caricaturer certains traits. Voilà, parce que c'est important à un moment donné de jouer avec cette frontière-là.
Et du coup, la présence que tu disais de cette autre personne qui avait un projet finalement sculptural, d'implantation, etc., qui était très différent de ton projet-là, t'a permis
de créer le mien.
Et d'avoir finalement un autre protagoniste qui est aussi un acteur.
D'une
autre perspective, ouais, en fait, que la tienne vis-à-vis de ce territoire, quoi, et de la création de ce projet.
Voilà, c'était une sorte d'objet qui n'existe pas l'un sans l'autre. Voilà. Cette volonté ou cette obsession de construire cette sculpture très contemplative, très efficace esthétiquement, et moi de l'autre côté, essayer de fabriquer cette aventure astronomique avec tout ce qu'il y a autour, en fait, tout le territoire, la politique, le salar. C'est une zone qui comporte la plus grande réserve de lithium, parce qu'en fait c'est en Bolivie, je ne l'ai peut-être pas dit au départ. Voilà, on est en Amérique latine, donc sur le désert bolivien. Et en dessous de ce désert, on a la plus grande réserve de lithium du monde, donc une potentielle manne économique et des guerres futures que, en ce moment, Evo Morales essaye de protéger. Donc, il a passé plusieurs contrats autour de la question de la nature, la Pachamama, etc. Il est en train de protéger tout ça. Et pour moi, ce drapeau planté, voilà, il y avait un rapport de pour fixer ce territoire, cette zone, le montrer, l'orienter. Pareil, sur la création des codes de couleurs de notre mythologie, nos combinaisons, on avait des écussons voilà, qui font écho à l'armée ou mission spatiale. Et sur l'épaule, on avait, par exemple, les couleurs qu'on ressemble à des pixels. Ils sont le drapeau Ayamara, donc du territoire sur lequel on était. Voilà. J'ai essayé, du coup, c'est pas forcément perceptible, mais toujours de poser des petits jalons comme ça, qui pour moi sont très importants sur la cohérence globale et sur mon rapport que j'ai avec ce territoire. Voilà.
Et dans la continuité de ce projet, qu'est-ce que tu développes en ce moment, en fait ?
Là, je dérive un petit peu, mais j'axe toujours mon regard sur le sol, en fait, parce que pour moi les missions spatiales, toutes ces questions, donc là je suis en résidence actuellement pour Exoplanet Lot, c'est un parcours d'art contemporain dans le sud, et donc moi ce qui me plaît beaucoup, c'est comment on arrive à générer artificiellement ou naturellement sur Terre des espaces sur lesquels on va se projeter ou imaginer et tester des robots, et voilà. Donc du coup je suis en train de travailler là-dessus sur une sorte de pose de contrôle va du coup surveiller le paysage. Voilà, je pensais, qu'est-ce que tu voulais, peut-être un truc en particulier?
Non, je me demandais en fait lien que tu faisais entre cette expérience-là et ce que tu développais. Et
peut-être oui, voilà, excusez-moi, je vais finir. Oui. Et donc, du coup, axer le regard, pardon, excusez-moi, sur ce projet du ciel, en fait, au lieu de regarder les étoiles, en fait, pardon, je filme depuis le ciel et je fixe le sol pour voilà, essayer d'analyser ou de retrouver des espaces qui pourraient ressembler à la planète Terre. Et puis ensuite, tout doucement, ce poste de contrôle va six écrans avec six vidéos. Et tout doucement, il va y avoir un dialogue avec moi et l'outil filmique que je suis en train d'utiliser pour faire ces images. C'est une sorte de drone et que je n'arrive pas à contrôler, voilà, qui des fois ne veut pas décoller. Ou j'ai peur de l'envoyer trop parce que j'ai le vertige, des choses comme ça. Tout doucement, ça va dériver à ce système de surveillance du sol, avec une relation avec le robot. Et voilà, du coup, ce qui me plaît beaucoup, c'est de parler du terroir, de la terre, comme élément de départ pour projeter à l'ailleurs. Voilà.
C'est marrant que tu cites justement ces espèces d'imperfections qui deviennent finalement, pour moi, une des qualités en fait, de ton travail. C'est que derrière tout, par exemple dans ce film, derrière toute cette volonté à un moment donné de réussir un projet avec toute la dimension comme ça presque... pas messianique, mais en tout cas du héros moderne qui est aujourd'hui Neil Armstrong, finalement, ça marche pas, quoi. Ça marche pas comme tu veux, ça, et que tu nous le montres, et d'une certaine manière qui est aussi un autre regard et qui est une espèce comme ça de pas de côté qui nous permet à un moment donné de nous voir nous-mêmes. Il y a pour moi un espèce d'effet miroir en fait qui se passe là-dessus et une espèce de décalage comme ça qui te met à défaut dans ton truc et c'est presque dangereux, j'ai presque envie de dire. Ton film est presque un objet comme ça, on a du mal tout à fait à savoir, et à la fois tu donnes des indices, on voit cette dinde à un moment donné, vous ramenez votre culture, vous faites votre dinde de Noël, et puis on en voit d'autres que vous filmez par la fenêtre en fait qui en effet... d'autres manières de célébrer à un moment donné un syncrétisme de culture, comme ça, cette espèce de décalage constant. Je sais pas, tu peux peut-être nous en parler un peu de tout ce rapport que tu as, ce décalage, comment tu le gères, comment tu as pu le gérer peut-être avec ton compatriote qui avait apparemment pas tout à fait le même regard que toi vis-à-vis de ça. Et
j'ai envie de dire que ça se construit au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai pas forcément tout de suite. C'est à un moment donné, dès le départ, j'essaie d'être assez large et de toujours, revenir sur ma réflexion ou revenir sur ce que je lance en fait, sur les éléments que je propose. Et après, au final, au moment où je construis cette conscience-là, j'essaie de la réinjecter avec ces morceaux-là, avec ces petites constructions, ces petits éléments que je capte, quoi. En ce moment, c'est que cette collaboration s'est délitée, on dit comme ça, puisqu'au départ, ce que je vous présente là, c'est comment on a réfléchi le projet. Moi, j'ai amené cette dimension autour de ce territoire, en fait, d'inclure l'autre dans le projet et de faire que la sculpture soit support, décor, mais en même temps que nous aussi, l'humain autour, devienne aussi donne de la profondeur à la chose. Voilà. Et lui, Guillaume, a continué, en fait, la suite de ça. Il a continué sur sa fascination de cette planète. Et a laissé tomber l'autre. Et il est resté cette image, peut-être, cette icône, dans sa recherche. Et donc, il a décidé de ne pas parler de notre collaboration, en tout cas, et de parler uniquement de sa sculpture et de la planète. En inventant, évidemment, tout un rapport qu'il a eu pendant son voyage. C'est-à-dire qu'il explique qu'il a construit ça avec des Indiens, etc. Et moi, je n'existe plus. Mais voilà, c'est un peu dur d'en parler comme ça, mais ça me fait plaisir d'être là en tout cas et de vous le présenter ce soir. Voilà.
Mais ce qui est intéressant dans ce que aussi vous racontez, ce qui se raconte, c'est la question de la concurrence des différents régimes du récit. Là, des récits qui relèvent de choix que vous avez faits, mais après des récits aussi qui se font, moi je dirais, à votre dépens. Et ceux-là, ils sont très importants parce qu'on en parlait aussi pas mal avec Vincent dans le cas du travail qu'il a mené ici aussi, la notion des contre-formes, c'est-à-dire ce qu'on propose et ce qui va apparaître par la proposition. Alors, c'est pas tout à fait un autre dépend, mais ça apparaît de manière plus ou moins attendue. Moi, je trouve que c'était assez important. Ce qui est quand même au départ un peu dingue et finalement se résout dans le film, c'est de quand même, bon, au-delà du fait qu'il y a ces grandes entités de sel et qu'il y a donc une puissance esthétique de l'endroit, on est dans ces endroits du monde où, pour le dire très pragmatiquement, on ne voit pas le ciel de la même manière qu'ailleurs. C'est beaucoup d'endroits où il y a des observatoires, parce qu'en fait, on ne voit pas le même ciel. On sait que dans toute cette partie du monde, les grandes cultures qui ont précédé la nôtre ont construit des cosmogonies parce qu'ils voyaient la Voie lactée que nous, on ne voit pas. Nous, on voit les étoiles, et donc, parce qu'il n'y avait pas de pollution, parce qu'il y avait le ciel découvert, c'est pas le même ciel que nous. Et ce rapport, donc, à pas avoir le même ciel, est déjà, je trouve, une métaphore, un endroit assez important. Et l'histoire, moi, j'aime beaucoup, hein, et c'est quelque chose qui est... C'est bien, c'est des fois aussi des cadeaux que font les expériences, mais cette espèce de déambulation des populations... Ils ont l'air en plus dans un état assez avancé. J'ai l'impression qu'ils ont mangé beaucoup de feuilles. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont dans une espèce de moment où là, tu te dis, il y a des mondes, quoi. Et ils sont dans une espèce de moment de monde qui se fabrique, avec un endroit qui est quand même vraiment, tu te dis, là, c'est vraiment, quand t'es perdu, tu sais, perdu. Mais il y a une espèce d'insistance à continuer à se faire des espèces de mondes comme ça, qui je trouve, rend un service au projet. Moi, je connaissais aussi un peu le projet sculptural, que je trouve un peu post-land art, et je trouve ça un peu triste. Et quelque part, là, il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui donne l'impression, moi, quand je vois le film, j'ai vu une intelligence, parce que c'est aussi, au-delà d'une manière, que ça peut être drôle, très bien, mais c'est pas tellement ça, en fait. C'est aussi un niveau de compréhension de où on en est aujourd'hui, quoi. Et je trouve qu'il y a des récits qui sont plus tellement possibles, et c'est pas pour faire autorité sur dire ce qu'on doit faire et pas faire, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut plus raconter de cette manière-là, et qu'effectivement, cette espèce de danse à la fin nous rappelle quand même que, bon, ils n'ont pas attendu... pour penser des formes, ils ne nous ont pas attendu pour être en rapport avec leur paysage, ils ne nous ont pas attendu pour imaginer d'autres mondes, ils ne nous ont pas attendu pour regarder le ciel. Donc il faut qu'on arrête de croire qu'on peut ramener à cet endroit-là quelque chose, sauf à se dire qu'on, nous aussi, on est un peuple d'ailleurs, on vient ramener un truc et on le vient le ramener en friction avec ce qu'ils font déjà. Mais c'est un petit peu cette question du déjà-là, qui est pour moi aujourd'hui une écologie de pratique et de relation aux choses, qui est quand même très nécessaire. C'est justement ce qu'il n'y a pas eu dans le moment colonial, c'est-à-dire considérer qu'on débarque et qu'on va apporter de la culture. Et évidemment, quand on regarde les choses qui sont un peu loin, comme elles sont très grossières, elles nous permettent de nous dédouaner de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais la question de la colonisation, ce n'est pas qu'une question de violence d'appropriation, c'est une question de ne pas considérer un déjà-là. Et là, je trouve que les gens qui dansent là, c'est ce déjà-là. Ils sont déjà en train de faire un monde quand vous venez faire le vôtre, en fait. Ils sont déjà en train de faire un monde, eux, une espèce de monde qui nous échappe.
C'est une très belle conclusion, justement.
Ah ouais, mais je trouve que ça, le film, ce moment-là, il est extrêmement important pour faire une ponctuation, de se dire, mais pendant que nous, on se dit, on est en train de faire... Ben, ils sont déjà en train de faire ce monde. Et puis, on peut imaginer, comme les cultures Inca, etc., qu'ils ont déjà été dans l'espace... En tout cas, dans leur mythologie, ils sont déjà dans l'espace depuis longtemps. Donc nous, on s'étudie Armstrong, mais ça, c'est un peu notre citation occidentale. Du premier homme dans l'espace, dans ces pays-là, ils sont déjà dans l'espace. Tu regardes toutes ces cultures-là, le récit d'aller dans l'espace est un truc extrêmement présent et qui est même des troublants presque. Hein, parce que le vaisseau spatial est presque déjà présent aussi dans les cosmogonies, donc on est dans quelque chose de très sérieusement connecté. Et c'est vrai que par exemple, l'état du ciel, quand tu vois la Voie lactée et pas les étoiles, et quand même un ciel que moi je suis allé une seule fois dans ces régions-là où qu'on ne reconnaît pas. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas le ciel. Il n'y a pas l'idée qu'on ait un ciel pour tous. Tu ne reconnais pas parce qu'il y a des éléments qu'on ne voit pas du tout quand nous on est en ville. Et donc tu as la position des étoiles qui est quelque chose que nous on voit très fort. Là elle est mêlée parce qu'on voit la Voie lactée par endroit. Parce que nous en ville, quoi, en tout cas en France, c'est quand même très rare, même quand on n'est pas en ville d'ailleurs, de voir un ciel comme ça. Du coup tu te dis, ils ont quand même. Le travail d'imaginaire par rapport au ciel, j'ai l'impression qu'ils sont mieux placés, pour dire ça de manière très... mieux placés que nous, géographiquement parlant, pour le coup, pour le faire.
Quoi. Oui. Et puis, bon, c'est très présent, d'ailleurs, dans les civilisations antiques, on va dire, des Andes, avec le dieu soleil, etc., la lune, donc c'est sûr qu'ils ne nous ont pas attendus pour...
Ce que j'apprécie particulièrement, c'est l'importance du regardeur, en fait, dans tout ton film. c'est de celui qui, enfin, du caméraman, quoi, de la diversité des plans et de certains moments où il y a finalement cette caméra qui est là pour nous raconter comment ça se passe, comment ça se monte avec. Et à un moment donné, ce petit pas en arrière, à un moment donné qui me dit je suis en train aussi de me filmer pendant que je filme, quoi. Et qui, il y a des plans, et je pense qui sont assez bien articulés justement dans la narration. Notamment, j'aime beaucoup ce plan où vous quittez la Paz avec cette musique comme ça, assez finalement, qui pour moi je trouve ça assez agaçant, c'est quelque chose d'assez désagréable à mon oreille, quoi, qui sonne exotique mais qui perturbe beaucoup. Et avec cette espèce de ville minérale presque construite, de paysages presque fantastiques, et à la fois avec tous ces câbles qu'on a vus avant, et pourtant qui raconte clairement une implantation sur un territoire, mais qui nous semble à la fois très familière, à la fois très étrangère. Il y a cette espèce de petits plans comme ça qui sortent d'une certaine manière de ce making-of autour de cette obsession de vouloir créer cet objet qui est presque un délire d'adolescent pour moi, mais que je trouve intéressant justement parce qu'il y a à chaque fois ce petit pas de recul et ce dont tu énonces à un moment donné de décalage entre finalement Guillaume et toi vis-à-vis de ce projet-là. Je pense que c'est ça qui donne aussi une certaine mesure, une certaine qualité à ton projet. Je pense que sans Guillaume,
on n'aurait pas pu. Évidemment, ça c'est clair.
Il fallait quelqu'un qui soit dans son délire et obstiné par quelque chose pour que toi tu puisses avoir ce pas de recul et pouvoir avoir d'une certaine manière un très bon acteur.
Dans le film, il y a, au moment où la planète apparaît, comme pour le streaming, il y a un son qui est en fait une fréquence sonore, ou plusieurs fréquences sonores qui correspondent à la transposition des fréquences électromagnétiques des planètes qu'on capte via la lumière et qu'on retranscrit sous forme sonore pour la ressentir les vibrations et voir à quoi ça correspond, puisque la lumière c'est pas forcément perceptible. Voilà, donc c'est ce qu'on entend, du coup c'est un mélange de plusieurs fréquences de planètes bien réelles, donc il y a bien du son au moment où la planète apparaît. Voilà.
Il y a d'une certaine manière tout l'envers du décor, et malgré tout à un moment donné s'opère quelque chose qui presque qui dérape. Je me rappelle d'un film que tu m'as montré sur Limbo. Alors je ne sais pas si c'était le nom du projet. Enfin,
En fait, c'était un film qui est une retranscription, en fait, une trace d'une performance réalisée avec mon collectif. Parce que ça, je l'ai pas forcément dit au départ. Mais le projet avec Guillaume, bon, il est ce qu'il est. Mais voilà, je travaille beaucoup en collaboration, en fait. Avec toi d'ailleurs, Vincent. Et du coup, l'autre, forcément, il est directement impliqué. Il est ma matière de travail également. Le groupe, je fais des travaux radiophoniques où je mets en jeu la radio et je fais partie d'un collectif PESCORP. Valentine est aussi ici. Et du coup, on organise ensemble différents types d'expositions dans un cadre ou un autre où on n'hésite pas à inventer des contextes aussi. Donc là, c'était donc
dans ce cadre-là. Voilà. Et qui était une performance où en fait Thomas se baladait avec un capteur qui permettait de récupérer les fréquences vidéo.
Sans fil.
Sans fil, donc des caméras de surveillance, des choses comme ça. Et donc ce qui était donné à voir, ce que j'ai vu moi comme film, qui était en fait une succession de plans, un montage, mais qui était lié à une déambulation dans un espace. Mais où il se passait, donc on commençait à comprendre en fait comment ça fonctionnait, parce qu'à chaque fois il y avait évidemment un espèce de personnages, il y avait plein de gens qui circulaient et puis qui avaient un drôle de comportement, déjà un physique reconnaissable, et un drôle de comportement parce qu'ils cherchaient quelque chose, ils cherchaient en fait l'œil qui le regardait et que lui regardait, puisqu'il avait l'émission radio, donc il y avait une espèce de circulation qui s'opérait, qui jouait sur quelque chose au premier abord de comique, et en fait qui devenait de plus en plus inquiétant. Il y avait quelque chose comme une espèce de présence comme ça qui était une quelque chose qui se cherchait lui-même et qui était l'œil qui se regardait, un espèce comme ça, et à la fois qui, voilà, qui avait quelque chose de très, ça pour dire, voilà, cette espèce de jeu qui est constamment tendu entre quelque chose qui pourrait basculer dans un burlesque vulgaire, mais qui se tient quand même à un moment donné, qui nous permet d'avoir une distance et d'être surpris en fait par une étrangeté, par quelque chose qui se joue, qui est beaucoup plus violent derrière, à la fois dans cette vidéo, et ça dénonce quelque chose, et ça le joue d'une certaine manière. Tu le cites et à la fois tu endosses le rôle de celui qui te surveille. Il y a une espèce de boucle comme ça, comme dans ce film où j'ai l'impression que tu es à la fois celui qui s'observe en rejouant d'une certaine manière soit un exploit, soit une tragédie en fait de notre société, quoi. En tout cas, à quoi on a participé, dans lequel on sent encore aujourd'hui à travers des mythes évidemment et à travers par ailleurs d'autres actes une éducation, une manière de faire, un regard sur soi et sur l'autre en fait, et que tu contrebalances constamment, où on est constamment cette espèce de fil. Tu parlais de fragilité, je pense que même dans ce rapport de bricolage, même au niveau du montage, elles traduisent assez bien cette espèce d'incertitude de savoir où se placer, et à la fois qui se présente quand même de manière assez j'ai envie de dire assez risqué et en ça je trouve intéressante, quoi. Voilà.
Oui. Parce que là, on vous sent quand même à chaque fois conservateur, oui. Et l'autre. Vous venez avec le film, je viens retour d'exploration. Je trouve que ça. Voilà. Comment est-ce que derrière ça a été vu là-bas? Est-ce que déjà un échange qui s'est fait?
Oui, en fait, mais donc le premier échange, ça a été la diffusion du streaming en Bolivie. Donc ça a été fait. Une discussion avec les gens du village sur ce qu'on était en train de faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a... En tout cas, moi, j'avais une petite caméra, celle que j'utilise pour filmer, qui avait un petit vidéoprojecteur. Et en fait, ils ont fait la fête tout le temps, pratiquement, ce qu'on voit là. Et la musique que Vincent n'aime pas trop, c'est le type de musique qui est jouée. En fait. Et c'est très compliqué de trouver, c'est bizarre à dire, c'est cette musique-là, voilà. Traditionnelle de Costumbre, ouais. C'est difficile de la retrouver en fait, c'est parce que d'habitude les musiques sont hyper retravaillées, remixées, etc. Et donc du coup je faisais comme de photos polaroïdes avec ma caméra, donc je filmais les gens et ils filmaient, etc. Ils m'ont reprojeté ensemble. Donc l'échange s'est produit de cette manière-là. Voilà. Après, on a essayé d'expliquer ce qu'on essayait de faire. On a quand même eu besoin d'autorisation, hein, pour pouvoir être dans le village. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, ça s'est fait de manière plus naturelle que un projet, deux artistes, etc. On était quand même
Et à la fois, il y a une scène quand même. Vous êtes en relation directe, c'est-à-dire qu'ils débarquent, ouais. Ils vont voir ce que vous faites, et ils sont quand même assez... On sent qu'il y a quand même... C'est curieux, quand même. Enfin, vous...
Oui, ouais, bah, ça, c'est clair.
Il y a quand même une scène presque comique, dans le sens de cette espèce de désinvolture vis-à-vis de l'objet que vous êtes en train de faire, qui est sacralisé tout du long avec tout cet exploit, et qui finalement...
Mais il le trouve pas si ridicule que ça non plus.
Non,
si
pas forcément ridicule,
parce
mais
que ça fait écho étranger en même temps familier, parce que ça fait écho aussi aux constructions Chulpa, Momi, par exemple. Okay. Donc c'est vrai que c'est ça, on a commencé à découvrir un petit peu les points de connexion en fait qui pouvaient se passer autour de cette forme. Mais après, il y avait pas forcément énormément de passages sur cette zone-là non plus. Donc on a voyé toujours le même type de personnes. Il n'y avait aucun touriste puisqu'on était dans la partie nord et toute la partie touristique est au sud du Salar. Donc c'est ça aussi qui était intéressant, de pouvoir s'immerger dans ces zones-là. Et puis ensuite, on était dans un lieu qu'on a loué, qui est un ancien hôtel de sel qui n'a pas du tout marché. Il a tenu un an et donc il était complètement délabré. Mais bon, ce qui était chouette, c'est que voilà, on a pu... avec ce projet-là, faire vivre ce petit village très très pauvre pendant le temps où on était là, quoi, puisque on allait dans les commerces autour. Enfin, voilà, et ça c'est l'interaction en tout cas s'est passée de cette manière-là. Au-delà d'un échange autour vraiment du fond du projet, on a essayé d'expliquer, mais on voyait que il comprenait pas forcément, mais c'était pas forcément grave. On pouvait échanger sur d'autres choses, et voilà. Deux mois et demi, en fait, on est parti deux fois. Et à chaque fois, c'était 2 mois et demi. Voilà. Dans la même période, en fait, puisqu'il fallait qu'il y ait une transition entre saison sèche et saison humide pour obtenir des images du salar sec et humide. Voilà, pour avoir ces deux types de plans avec le reflet et le sang.
Merci à vous.
Merci.